Bonjour à tous, bienvenue sur les nouveaux chemins de la connaissance.
Sous la direction du professeur Shadoko, les Shadok ont construit une fusée interplanétaire. Pour que le Cosmogol JB vienne chez nous, il suffit que nous le pompions, grâce à cette cosmopompe de mon invention, d'une puissance incroyable de 3 millions de Shadok vapeur.
La machine comme élément de l'ensemble technique devient ce qui s'oppose à la dégradation de l'énergie. La machine, œuvre d'organisation, d'information, est comme la vie et avec la vie, ce qui s'oppose au désordre. La machine est ce par quoi l'homme s'oppose à la mort de l'univers. Cette modification du regard philosophique sur l'objet technique annonce la possibilité d'une introduction de l'ère technique dans la culture. Et l'équipe des Nouveaux Chemins s'oppose elle aussi au désordre. Marianne Chassor, Antoine Ravon, Colomba Grossi, Lucie Tardy, David Pargamin, sans oublier bien sûr Adèle Van Rett, avec à la lecture des textes cette semaine Jean-Louis Jacopin, à la réalisation Nicolas Berger et à la prise de son aujourd'hui d'Alia. La liste que le philosophe Gilbert Simondon dresse lui-même en 1980 de ses principales recherches, il note technologie théorique et appliquée, imagination et invention, la créativité, études sur l'instinct et l'éthologie, études sur l'apprentissage chez les animaux inférieurs, études d'écologie, études des problèmes posés par l'introduction des techniques contemporaines dans les pays en voie de développement, histoire comparée des techniques, rôle de l'hermétisme, études de la résolution des problèmes ou encore études sur les effets de l'éblouissement consécutif et simultané. Et la liste ne s'arrête pas là. De la technologie à la perception de l'œil, de l'imagination à l'information, de la physique à la psychologie, de l'individuation à la cybernétique, l'œuvre de Gilbert Simondon a des allures d'encyclopédie, de celles qui impressionnent et laissent des traces, de celles qui ne se laissent pas d'emblée apprivoiser, mais avec lesquelles tout prend une autre et une nouvelle dimension. Le souci du détail, l'expérimentation documentée, le vocabulaire aiguisé, l'ambition de faire système. Le plus simple est alors de partir de sa propre genèse, de la technique. L'objet technique avec lequel le nom de Simondon continue de résonner aujourd'hui. Et d'une technique, la sienne. Un art inédit d'approcher la machine pour y découvrir ce à quoi on l'opposait, la vie. Sa puissance créatrice, sa capacité à se réinventer. La possibilité de libérer l'homme et de lui donner une nouvelle culture. La machine comme et avec la vie donc. Et l'œuvre de Gilbert Simondon a cela de la machine telle qu'il l'a pensée. Raisonner avec elle-même et avec nous, se réinventer et porter en elle des pouvoirs de changement, un nouvel humanisme. Avant donc de déplier les pages de l'encyclopédie Simondon, avant l'individuation, l'imagination et l'invention du futur, penchons-nous aujourd'hui sur le mode d'existence des objets techniques. Ou comment postuler que les objets techniques ont une existence n'enlève rien aux hommes, mais mieux, leur promet un horizon culturel neuf. Et pour cela, j'ai le plaisir d'accueillir Nathalie Simondon, professeure de philosophie en classe préparatoire au lycée Molière, fille de Gilbert Simondon et responsable des publications de Gilbert Simondon au PUF et de l'édition du mode d'existence des objets techniques chez Aubier. Bienvenue et bonjour à vous.
Bonjour.
Xavier Guchet à ma gauche, professeur de philosophie à l'université de technologie de Compiègne, auteur de « Pour un humanisme technologique, culture, technique et société » dans la philosophie de Gilbert Simondon, paru au PUF. Bonjour et bienvenue à vous aussi.
Bonjour.
Au point de départ, j'ai été sensible à une espèce d'injustice dont notre civilisation s'est rendue coupable envers les réalités techniques. On parle d'objets esthétiques, on parle d'objets sacrés, Mais n'y a-t-il pas des objets techniques ? J'ai voulu employer la même expression parce qu'il m'a semblé que cette symétrie pourrait attirer l'attention sur une lacune.
Une attitude réflexive doit commencer par éviter de postuler une appartenance ou une fin déterminée au moment où elle commence à exister et essaie de se définir. Une philosophie qui accepterait d'être définie par un qualificatif tel que chrétienne, marxiste, phénoménologique, trouverait la négation de sa nature philosophique dans cette détermination initiale. Or, il semble que l'évolution récente des courants d'idées ait presque entièrement fait disparaître la philosophie réflexive au profit d'un certain nombre de pensées qui se présentent comme philosophie et qui sont plutôt, en fait, des utilisations des coutumes de pensée acquises dans la pensée philosophique au profit d'une cause déjà définie avant le moment où la pensée commence à s'exercer, qu'une réflexion directe et libre. Depuis que les méthodes d'action de l'homme sur le groupe au moyen de l'information dirigée se sont imposées dans la plupart des régimes politiques, la pratique de la pensée philosophique a trouvé un emploi dans la défense de tel ou tel intérêt spirituel. Cette recherche d'un emploi dans la société temporelle semble définir un affaiblissement du sens philosophique, une démission devant l'échec. Il y a du désespoir dans cette course à l'intégration immédiate, dans cette recherche de réussite à tout prix. La seule pensée qui se reconnaisse le droit de rester réflexive et qui exprime même vivement cette exigence est la pensée scientifique ou la recherche érudite. Toutes les pensées traditionnellement considérées comme littéraires sont orientées par une préoccupation politique ou religieuse.
Une attitude réflexive doit commencer par éviter de postuler une appartenance. Ce sont les mots de Gilbert Simondon, interprété par notre comédien Jean-Louis Jacopin. C'est un texte de 1955, un texte inédit que nous avons eu grâce à vous. Merci beaucoup Nathalie Simondon. Est-ce que ce serait du coup se tromper que de présenter la pensée de Gilbert Simondon comme une pensée de la technique ?
Alors, la pensée de Gilbert Simondon est certainement une pensée de la technique, au moins pour une grosse part, puisque la technique présente à ses yeux un enjeu tout à fait central pour la pensée réflexive. Mais le texte qu'on vient d'entendre situe bien son exigence dans l'exigence philosophique tout à fait générale. On ne peut pas désespérer de la philosophie, c'est la philosophie et elle seule qui est susceptible de résoudre les problèmes humains, parce que les problèmes humains sont avant tout les problèmes culturels. Et si la philosophie peut aider à résoudre les problèmes humains, c'est par ce très long détour, expression qu'il reprend à Platon, ce long détour de la pensée réflexive qui doit s'attacher à la compréhension du réel dans toute sa complexité, de la réalité physique, de la réalité vivante, mais aussi de la réalité humaine et culturelle, et de la réalité technique. On ne peut agir vraiment et proposer quelque chose de l'ordre d'un progrès que par le passage, par la réflexivité.
Qu'est-ce que ça veut dire ce terme de réflexivité ? Il emploie plutôt d'ailleurs le terme de réflexivité, d'attitude ou de pensée réflexive que celle de philosophie. Est-ce à dire que chez Gilbert Simondon, l'objet technique lui donne aussi une autre approche, une autre méthode ?
La pensée réflexive désigne chez lui le fait de pouvoir reprendre de façon réflexive des éléments qui seraient déjà donnés, par exemple, par l'expérience immédiate de la vie ou par la science. Des éléments déjà donnés, il faut les repenser et voir en particulier s'ils sont bien pensés et s'ils sont susceptibles de résoudre les problèmes qui se posent à l'homme. Si la pensée doit être complète, à ses yeux, c'est parce que sans développer une compréhension complète du monde de l'homme, on ne comprend pas le sens des choses. On ne comprend pas le sens de la technique, on ne comprend pas non plus le sens des pensées politiques ou des pensées morales ou des pensées religieuses. C'est une pensée de la culture qu'il développe et qui culmine dans la troisième partie du mode d'existence des objets techniques, c'est-à-dire de l'œuvre pour laquelle il est connu comme philosophe de la technique. Et ce qui est intéressant, c'est que faisant un ouvrage sur la technique, intitulé « Mode d'existence des objets techniques », il propose en troisième partie une doctrine de la culture tout à fait complète et qui doit être saisie dans sa genèse, et dans laquelle la technicité est saisie comme l'un des modes de rapport au monde, mais un seul parmi d'autres, qu'on ne peut comprendre qu'en comprenant aussi les autres.
Et pourquoi ce mode de rapport au monde, cette manière de se rapporter au monde, lui a-t-il plus intéressé Gilbert Simondon qu'un autre rapport au monde ? Il parle au départ, dans l'archive qui date de 1967, d'une injustice, d'un sentiment d'injustice par rapport à l'objet technique. Il aurait été peu traité dans la philosophie par rapport à l'objet esthétique et l'objet sacré. Comment cet objet technique lui ouvre la brèche pour penser une culture beaucoup plus globale de l'homme. Xavier Guchet.
Alors déjà, il faut attirer l'attention sur le terme même d'objet technique. Et comme le montre très bien cet entretien avec Yves Deforge, Deforge pose la question à Simondon, mais pourquoi cette expression d'objet technique ? Ça veut dire qu'à l'époque, ça ne va pas de soi de parler d'objet technique, de traiter philosophiquement de la technique à partir de la catégorie de l'objet. Et effectivement, la figure de Heidegger est tout à fait dominante dans la problématisation philosophique de la technique, et s'il y a bien quelqu'un qui a pensé ou cherché à penser la technique autrement qu'à partir des objets, c'est Heidegger. Donc Simondon se déprend d'une sorte de suprématie philosophique de Heidegger, en quelque sorte, imposé par Heidegger, pour remettre au cœur de la pensée philosophique la catégorie même de l'objet technique. Ça, c'est le premier point. Donc, il y a une ambition conceptuelle extrêmement forte dans ce livre du mode d'existence des objets techniques, sans compter le fait que, bien sûr, parler d'existence des objets techniques, toujours d'un point de vue phénoménologique ou existentialiste, pouvait paraître être une hérésie. Or, Simondon, là, marque une décision théorique extrêmement forte pour requalifier, refondre en profondeur le concept même de l'objet technique en lui attribuant des notions comme l'ouverture au monde, comme la temporalité. Pour répondre à votre question sur mais pourquoi la technique comme voie d'accès privilégiée au rapport entre l'homme et le monde et
pour comprendre le monde
à la totalité de la culture, en fait, on peut évoquer le premier extrait que vous avez passé. Puisque Simondon, dans cet extrait, montre très bien, ou dit très bien, très clairement, que la technique est en quelque sorte à la charnière entre la vie et l'ensemble des institutions culturelles. C'est-à-dire, et d'une certaine manière, en disant cela, il s'inscrit dans une tradition de philosophie, d'anthropologie de la technique qu'on va trouver chez Mauss, chez le roi Gourand par exemple, ou chez d'autres, chez Canguilhem en partie. C'est-à-dire que la technique est à la jonction, en quelque sorte, ou fait la jonction entre le vital et ce qui excède la simple vie, ce qu'il appelle à un moment donné la simple vie, c'est-à-dire toutes les institutions de la culture. Donc la technique a un rôle, effectivement, je partage totalement le point de vue de Nathalie Simondon. Il n'est pas question de faire de Simondon un penseur de la technique stricto sensu, mais la technique a une place tout à fait privilégiée, parce qu'elle est organisatrice de ces rapports entre l'homme et le monde, en sachant que l'homme est avant tout un vivant, et que ces rapports de l'homme et du monde, dans leur organisation même, doivent être pensés à partir de la vie.
Ce qui, maintenant, me préoccupe le plus, ce n'est pas une étude froide et objective que je crois nécessaire. Je voudrais surtout éveiller culturellement mes contemporains en ce qui concerne la civilisation technique, ou plutôt les différents feuillets historiques et les différentes étapes d'une civilisation technique. Car j'entends des grossièretés qui me découragent. Particulièrement, l'objet technique est rendu responsable de tout. Nos civilisations sont techniciennes, il n'y a pas assez d'âmes, ou bien la civilisation de consommation est rendue responsable des désastres de nos jours et du désagrément de vivre. Elle n'est pas tellement technicienne, notre civilisation, mais quand elle l'est quelquefois très mal. Autrement dit, je crois bien qu'il faudrait apporter un tempérament, qu'il faudrait modifier l'idée selon laquelle nous vivons dans une civilisation qui est trop technicienne. Simplement, elle est mal technicienne.
La culture se conduit envers l'objet technique comme l'homme envers l'étranger quand il se laisse emporter par la xénophobie primitive. Le misonéisme orienté contre les machines n'est pas tant haine du nouveau que refus de la réalité étrangère. Or, cet être étranger est encore humain. Et la culture complète est ce qui permet de découvrir l'étranger comme humain. De même, la machine est l'étrangère. C'est l'étrangère en laquelle est enfermé de l'humain méconnu, matérialisé, asservi, mais restant pourtant de l'humain. La plus forte cause d'aliénation dans le monde contemporain réside dans cette méconnaissance de la machine, qui n'est pas une aliénation causée par la machine, mais par la non-connaissance de sa nature et de son essence, par son absence du monde des significations et par son omission dans la table des valeurs et des concepts faisant partie de la culture. En fait, cette contradiction inhérente à la culture provient de l'ambiguïté des idées relatives à l'automatisme, en lesquelles se cache une véritable faute logique. Les idolâtres de la machine présentent, en général, le degré de perfection d'une machine comme proportionnel au degré d'automatisme. Or, une machine purement automatique, complètement fermée sur elle-même, dans un fonctionnement prédéterminé, ne pourrait donner que des résultats sommaires. La machine, qui est douée d'une haute technicité, est une machine ouverte. Et l'ensemble des machines ouvertes suppose l'homme comme organisateur permanent, comme interprète vivant des machines les unes par rapport aux autres. Loin d'être le surveillant d'une troupe d'esclaves, l'homme est l'organisateur permanent d'une société des objets techniques qui ont besoin de lui, comme les musiciens ont besoin du chef d'orchestre.
Dans l'archive que nous avons d'abord entendue, hein, qui date de 1968, c'est un documentaire de Jacques Parent, le but de Gilbert Simondon, dit-il, est de dépasser l'étude froide et objective, ou du moins pas seulement cette étude-là, mais aussi, il dit, vouloir éveiller culturellement ses contemporains à la civilisation technique. C'est-à-dire, tel qu'on l'a entendu aussi dans le texte interprété par Jean-Louis Jacobin, extrait de l'introduction du mode d'existence des objets techniques, donner à connaître la nature et l'essence de la machine pour mettre fin à la xénophobie primitive face à l'objet technique. Alors, comment Gilbert Simondon définit-il l'objet technique, Xavier Guchet ?
Alors,
vaste question.
Oui, vaste question. Non, alors c'est plutôt une question de repenser les rapports de l'homme à la technique. Simondon fustige un rapport que je dirais de type spéculaire, c'est-à-dire un rapport qui considère l'objet technique avant tout comme un moyen en vue de fin, qui sont établis indépendamment des moyens mis en œuvre, qui sont de la compétence, de la société, des hommes, etc. L'objet technique étant vidé de toute référence à la sphère des valeurs, à la sphère des finalités humaines, et n'étant que de l'ordre des moyens, de l'ordre de l'utilitaire. Or, pour Gilbert Simondon, c'est là commettre une véritable faute, et je dirais même une faute morale, enfin je dirais, il le disait lui-même, une faute morale envers nos objets techniques. C'est-à-dire qu'il renverse complètement, comme il l'explique très bien, l'évaluation, ou l'ordre, si vous voulez, le sens de l'évaluation des objets techniques. Le regard est dominé à l'époque par une évaluation négative de la technique pour ce qu'elle apporte de déshumanisant, de destructeur des valeurs humaines, sociales, etc. Simondon renverse complètement les termes du problème en disant que c'est vis-à-vis des objets techniques, nous comportons comme si nous écrasions, comme si nous nions
les valeurs. Déshumanisons l'objet.
Déshumanisons l'objet technique qui est, en tant que tel, porteur d'une très grande richesse humaine, une très grande quantité de valeurs, de par la quantité d'efforts humains qu'il a fallu pour les penser, pour concevoir leur schéma de fonctionnement, pour les faire évoluer. L'objet technique est constitutivement une réalité humaine extrêmement riche. Et cette réalité-là n'est pas reconnue dans la sphère de la culture.
Alors, qu'est-ce que ça veut dire de reconnaître la part d'humanité dans la machine, finalement ? Quelle distinction, ensuite, entre l'homme et la machine ? Et d'abord, oui, qu'est-ce que ça veut dire de reconnaître la part d'humanité en la machine ? Est-ce que ça veut dire qu'elle a été d'abord construite, conçue dans un esprit humain ? Ou c'est que cette machine, finalement, évolue, est utilisée par des humains ? Nathalie Simondon.
Il y a plusieurs aspects, pour répondre à votre question, il y a plusieurs aspects de l'humanité qu'on retrouve dans la machine. D'abord, c'est la machine où l'objet technique est inventé. Il procède d'une pensée imaginative. Il y a toute une théorie de l'invention très importante. Et cet aspect d'invention et aussi de production, de fabrication, est nié d'une certaine façon lorsque l'objet vit sa vie dans la société, dans le monde du commerce, de la production industrielle, et on le reçoit comme quelque chose qui, bien qu'ayant été produit par les hommes, nous apparaît comme étranger et va porter ensuite toute une série de valeurs provenant de stéréotypes sociaux va donc exister dans la société selon des caractéristiques qui n'ont plus rien à voir avec sa véritable signification. Alors c'est déjà ça que ça veut dire, et ça veut dire que c'est une aliénation. Parce que lorsque ce que l'homme produit se finit par se retourner contre lui comme si c'était étranger, puissant, dans la domination technocratique par exemple, là on est tout à fait dans le cas d'une aliénation, et l'œuvre de culture que doit réaliser la philosophie, c'est une œuvre de libération des diverses aliénations qui sont liées à ces erreurs de jugement ou ces stéréotypes. C'est une première chose. Les extraits que vous avez donnés à lire montrent bien à quel point la technique est un enjeu pour aujourd'hui. La pensée de la technique est un enjeu pour aujourd'hui. Car c'est vraiment en elle et par elle que réside à la fois le plus grand pouvoir d'aliénation, mais aussi la solution de la libération de cette aliénation. Ce qui fait que la technique est le moyen de l'aliénation, c'est la transformation de notre civilisation en ce qu'il appelle une civilisation du rendement. Et dans cette civilisation du rendement, les individus et les hommes eux-mêmes sont soumis, comme les machines, à une obligation d'exister purement fonctionnellement à l'égard de la communauté.
Mais finalement... allez-y,
non, je sais. Et alors, du coup, ce que une pensée authentique de la machine peut permettre, c'est précisément de sortir de cette chape de plomb qu'est la communauté qui réduit l'individu à n'être que celui qui exerce une fonction, parce que la machine ou l'objet technique nous met en relation avec quelque chose qui sort de la communauté. C'est ce qui permet d'échapper à l'emprise économico-sociale de la communauté par le rapport au réel, qui est très important dans la mesure où il donne accès à des valeurs qui ne sont pas purement produites par la communauté.
Mais qui est aliéné finalement ? Est-ce l'homme à la machine à l'homme ? Parce que découvrir la part d'humanité en la machine, c'est pas ce qui empêche l'aliénation. L'aliénation existe entre des hommes. Donc finalement, en quoi découvrir cette relation entre homme et machine permet une libération à la fois de la machine et de l'homme ? Xavier Guchet ?
Aliéné, Simondon l'entend comme étant une réalité coupée d'elle-même. C'est être coupé de sa propre réalité. Donc la question n'est pas pour Simondon de savoir qui est aliéné, est-ce que c'est l'homme qui aliène la machine ou la machine qui aliène l'homme. C'est la machine est aliénée dans notre civilisation mal technicienne, comme il le dit très bien, au sens où elle est coupée de sa propre réalité, au sens où sa réalité n'est pas reconnue dans la sphère de la culture et de la pensée. Et cette situation aliénée des objets techniques aliène du même coup l'homme, parce que la technique, encore une fois, fait partie du domaine de la réalité humaine. On ne peut pas penser la réalité humaine concrète sans penser la technique du même coup. Si la technique est mal pensée, l'homme est mal pensé.
Il y a aussi quelque chose qu'il faut relever dans la pensée de Gilbert Simondon par rapport à la technique, c'est justement de l'appréhender de manière globale et de complètement détonner par rapport à d'autres penseurs de la technique qui sont beaucoup plus qui ont une approche beaucoup plus morale, du moins beaucoup peut-être un peu moralisatrice. Je pense à Antionas ou à Jacques Ellul par exemple, qui vont clairement appliquer des dimensions morales à la technique, le bien, le mal ou la neutralité. Qu'en est-il chez Gilbert Simondon ? Parce que c'est cette approche quand même de la technique pour la réhabiliter, cette idée de dire quand même que la société, la civilisation est mal technicienne, c'est produire un jugement moral.
Oui, ce n'est pas tant qu'il cherche à réhabiliter la technique en elle-même, puisque la technique est, sous certaines conditions, notamment dans la civilisation du rendement, elle est un mal, en un sens. Hein. C'est surtout qu'il cherche à faire apparaître qu'on peut avoir une relation à la technique qui ne soit pas aliénante. Mais pour ça, il faut se donner du mal. Il faut la penser et surtout pas la rejeter comme la source du mal. Dès qu'on la pense comme la source du mal, c'est terminé. Il faut voir à quel point elle peut être dangereuse, instrument de domination, elle peut être rêve de puissance chez les technocrates, ça, il en est parfaitement conscient. Mais il a aussi conscience qu'on peut, en réformant le rapport aux objets techniques, une chance de surmonter cette aliénation de l'homme par l'homme à travers la technique.
Xavier Cuchet.
Oui, il faut bien voir que Simondon s'oppose à deux attitudes contraires, apparemment contraires, mais qu'il renvoie dos à dos, à la fois donc une sorte de technophobie qui verrait dans la technique l'autre de l'homme et une menace pour l'homme, et puis une sorte de technophilie. Qui n'est pas un mieux par rapport à la technophobie, une technophilie qui consisterait à voir dans la technique la solution à tous les problèmes humains, notamment par l'automatisation. Dans l'extrait que vous avez passé, il y a une critique très claire la conception de la perfection technique comme automatisation, qui est une critique implicite dans cet extrait-là, plus explicite ailleurs, d'une certaine conception de la cybernétique. Donc ces deux vis-à-vis, ces deux attitudes apparemment opposées, sont rejetées en même temps par Simondon.
Parce que toutes les deux sont en fait des...
Méconnaissent la nature propre de la technique.
Et renferment la machine comme si c'était un domaine à part et sans relation finalement. C'est ça qui est aussi frappant dans cet extrait, c'est l'idée de machine ouverte.
Ah oui. Oui, bien sûr, c'est-à-dire de machine qui est définie par le type de relation avec autre chose qu'elle, que ce soit avec d'autres machines, avec ce que Simondon appelle un milieu associé. C'est la dimension existentielle de l'objet technique, exister, avoir une relation avec ce qui n'est pas soi ou être hors de soi. Il faut prendre le terme au pied de la lettre chez Simondon. La machine concrète, enfin la machine saisie dans sa réalité propre, est une réalité qui est ouverte sur autre chose qu'elle et qui se définit par le type de relation qu'elle a avec ce qui n'est pas elle.
C'est France Culture, il est 10h28, bienvenue sur les nouveaux chemins de la connaissance. Toute cette semaine, nous parlons du philosophe Gilbert Simondon. Et aujourd'hui, pour commencer cette série d'émissions, de son livre du mode d'existence des objets techniques, disponible chez Aubier. Et nous sommes en compagnie de Nathalie Simondon, professeure de philosophie en classe préparatoire et responsable des publications de Simondon au PUF, et de Xavier Guchet, professeur à Compiègne et auteur de « Pour un humanisme technologique, culture, technique et société dans la philosophie » de Gilbert Simondon, disponible au PUF.
L'objet concret est celui en lequel il y a ce qu'on peut nommer une résonance interne ou réverbération interne, c'est-à-dire qui est faite de telle sorte que chaque partie tient compte de l'existence des autres, est modelée par le groupe qu'elle forme et par conséquent peut également jouer un rôle plurifonctionnel. Non seulement elle est informée par les autres pièces, mais encore elle joue un rôle pour elle, elle est en rapport avec elle. J'ai parlé de la turbine gimbal. Il s'agissait de faire un groupe qui pourrait être tout entier mis à l'intérieur de la conduite forcée, alternateur compris, non pas seulement la turbine, mais l'alternateur. L'idée de gimbal a consisté en ceci, faire un alternateur suffisamment petit pour qu'il puisse tenir dans un carter étanche juste derrière la turbine. Mais si on fait un alternateur très petit, il ne pourra pas évacuer sa chaleur parce que le fil sera de faible section et par conséquent, la résistance ohmique importante conduira à une grande dissipation d'énergie. L'ensemble va brûler. Guimbal a résolu le problème de la manière suivante. Précisément en supposant que le problème est résolu, c'est-à-dire en supposant que l'alternateur est suffisamment petit, il peut être mis à l'intérieur de la conduite forcée. Isolé avec de l'huile, il baignera tout entier dans l'huile. Comme l'alternateur tourne, l'huile est brassée énergiquement. Le carter étant lui-même au sein de la conduite forcée, ce carter est en contact avec l'eau qui est très énergiquement brassée puisqu'elle vient de passer à travers la turbine. De cette manière-là, on a une évacuation de la chaleur qui est très supérieure à ce qu'on aurait avec un alternateur de plus grande dimension tournant dans l'air.
Voilà, on a une explication par Gilbert Simondon lui-même du fonctionnement de la turbine Guimbal. Alors on peut juger en plus de toute la connaissance qu'avait Gilbert Simondon de la technique. C'est vrai qu'on n'a pas insisté là-dessus, mais Gilbert Simondon n'est pas que philosophe. Il a aussi donné quelques cours de physique, il a aussi été professeur de psychologie. Et là, on entend donc cette connaissance technique. Et donc cette turbine Guimbal illustre parfaitement ce qu'on a entendu tout à l'heure dans son texte, à savoir cette idée de machine ouverte, cette idée que la machine fonctionne avec un milieu, est en relation avec un milieu tel que vous l'expliquiez tout à l'heure, Xavier Guchet.
Oui, alors c'est vrai, vous avez raison de souligner que la culture scientifique et technique de Gilbert Simondon est absolument encyclopédique, du point de vue historique aussi. Hein, il avait une connaissance de l'histoire des techniques impressionnante. Donc l'exemple de la turbine Guimbal, qui est un peu archétypal, qui est celui qu'on met toujours en avant parce qu'il est à la fois extrêmement complet et très clair sur les concepts, veut dire la chose suivante. Simondon parle de concrétisation, hein, pour qualifier ce type d'objet. Alors concrétisation versus abstraction, pourquoi ? Eh bien parce que un ingénieur, entre guillemets, classique, qui raisonnerait de manière abstraite, donc, face à un problème comme comment construire une turbine de très petite taille qui puisse être immergée donc dans la conduite forcée, c'est-à-dire cette partie où circule l'eau dans une centrale hydroélectrique par exemple, l'ingénieur abstrait donc construirait sa turbine et sa génératrice à très petite taille et ensuite se demanderait quel type de dispositif ad hoc il faudrait ajouter pour qu'elle évite d'exploser dans l'air. Et une fois qu'il aurait résolu son problème, il pourrait émerger son dispositif. L'ingénieur concret, pourquoi est-ce qu'il est concret ? Parce qu'il pense l'objet technique, par anticipation, dans son environnement concret de fonctionnement. Et cet environnement comprend à la fois le carter d'huile, l'eau de la conduite forcée, et que par le fait même d'être pensé par anticipation dans son environnement concret, on s'aperçoit que le problème qui se posait au départ se trouve résolu, parce que en fonctionnant, la turbine crée des perturbations dans les liquides qui l'environnent et du coup assure son propre refroidissement, c'est-à-dire ses propres conditions de fonctionnement. Donc c'est une approche concrète au sens où l'objet n'est pas abstrait de son milieu de fonctionnement lors du processus de conception d'invention.
Nathalie Simondon, vous voulez ajouter quelque chose sur le processus de concrétisation qui justement rend spécifie aussi la pensée de Gilbert Simondon.
Ce que je pourrais ajouter simplement ici, c'est que cette description d'une invention qui est celle de la turbine Guimbal est en même temps un appel à la description de l'acte mental correspond à un objet technique concrétisé. C'est ce qu'il appelle véritablement l'acte d'invention, qui est l'invention étant l'aspect mental de l'objet technique en lui-même, et qu'il étudie dans le cadre d'une théorie générale de l'imagination, et qui est à ce titre très importante pour penser l'ensemble de la technique et de la progression des objets techniques.
Donc il y a l'intervention à la fois humaine quand même pour construire cet objet technique, mais on voit bien aussi que l'objet technique a une forme d'autonomie en fait, de vie propre, et en cela l'objet technique se distingue aussi, il faut le dire, peut-être de l'ustensile, de les dimensions inertes de l'ustensile ou peut-être de l'outil ou de l'instrument. Il y a quelque chose de plus compris dans l'objet technique, Xavier Guichet.
Alors, j'aurais plus une réserve par rapport à ces termes-là. Simondon applique également les notions de concrétisation, d'abstraction, aux outils proprement dits. Hein, il parle d'une herminette à un moment donné dans du mode d'existence. L'herminette comporte différentes parties qui peuvent avoir entre elles des relations très concrètes, très concrétisantes en termes d'échanges énergétiques, etc. Donc les concepts ne partagent pas, les concepts de Simondon ne partagent pas le domaine des machines industrielles proprement dites, du domaine des technologies pré-industrielles. Je crois que ce serait faire fausse route. En revanche, vous avez raison de souligner que l'essentiel des exemples que Simondon prend pour développer ces concepts sont pris dans les réalités industrielles du moment, notamment les machines, mais aussi tout ce qui concerne la, l'électronique. Hein. L'électronique, les transistors, les diodes, etc. Voilà. Donc, alors, une autonomie, il faut. Disons, moi, je préférerais parler de normes. L'objet technique est porteur de ses propres normes. Il y a une normativité de la technique qui n'est pas dans la dépendance, comme le disait Nathalie tout à l'heure, dans la dépendance stricte des valorisations psychosociales du moment, des choix de prestige des uns et des autres pour tel ou tel type d'objet un peu tape à l'œil, etc. Il y a une normativité propre de la technique qui se retrouve dans les concepts de Simondon, notamment celui d'évolution technique.
Nathalie Simondon.
Alors, ce que vient de dire Xavier Guchet est très très important. La question de la normativité propre de la technique, c'est exactement ce qui donne toute sa valeur à l'étude des techniques et à l'effort que Gilbert Simondon a fait pour permettre qu'on en saisisse l'essence. C'est notamment l'objet de son effort pour distinguer les différents modes d'existence des objets techniques dans son ouvrage, en particulier l'existence sous forme d'éléments ou sous forme d'individus ou ensuite sous forme d'ensemble. C'est bien en raison de cette normativité propre de l'objet technique qu'il faut savoir distinguer ces différents modes d'existence, car les normes ne sont pas les mêmes et la façon de juger en technologue des objets techniques va dépendre de leur mode d'existence. On ne juge pas d'un élément de la même manière qu'on juge d'un individu technique. On ne juge pas non plus l'individu technique comme on va juger l'ensemble technique. Et ça, alors ça a une portée considérable parce que, ça c'est sans doute l'aspect le plus personnel de son approche de la technique, ça a une portée dans le domaine du jugement moral aussi. C'est-à-dire que le jugement correct sur les objets techniques, celui du technologue, le jugement de celui qui a une véritable culture technique, c'est-à-dire qui est capable de saisir devant un objet technique, devant un être technique à ce moment-là, il faut dire un être technique à ce moment-là, s'il est un élément, s'il est individu, s'il est ensemble, eh bien ce jugement-là est lui-même une norme possible pour le jugement moral. Car il apprend, ce jugement apprend à ne pas nier l'élément dans l'individu, à ne pas nier l'individu dans l'ensemble, car dans l'être technique, la partie vaut autant que le tout. Et en quoi est-ce une norme très importante pour le jugement moral, le jugement moral de ce qu'il appelle une pensée morale profonde, véritable, c'est qu'on ne juge pas à côté, on juge en fonction de ce qu'est l'être, de ce qu'il devient, de la façon dont il se concrétise, dont il s'associe. Et dans ces conditions, le jugement véritablement technologue est déjà un jugement réparateur. C'est ce qu'il appelle la modalité optative. Juger en technologue, ce n'est pas séparer les machines en bonne machine ou mauvaise machine. C'est toujours se demander comment cette machine pourrait être améliorée. D'une certaine manière, juger un homme ou se juger soi-même, moralement, c'est aussi commencer un geste réparateur. Donc il y a dans cette norme de la technicité, la norme propre de la technicité, une source très importante pour peut-être réformer d'une certaine manière le jugement que les hommes se portent sur eux-mêmes.
On voit bien qu'il y a une continuité entre les hommes et les machines, mais est-ce que tout le monde est à même de pouvoir porter un regard de technicien sur un objet, c'est-à-dire de dire comment la machine peut être améliorée? On peut très bien juger un homme en se disant il pourrait faire ça, ça irait mieux, etc. Mais c'est difficile de porter ce jugement-là sur la machine, ça suppose une connaissance.
C'est la question de l'éducation que vous posez, l'enseignement technique. Et justement, il a fait un certain nombre d'efforts pour promouvoir un enseignement technologique véritable qui permette aux enfants de saisir dans une progression évidemment bien pensée, les schèmes techniques. Hein, les schèmes, c'est-à-dire un schème technique, c'est un régime de causalité dans un système de réalité. Il faut comprendre ce que c'est qu'une rétroaction, il faut comprendre ce que c'est que le schème d'un treuil, etc. Ça fait partie d'une éducation de base et d'une éducation complète.
Xavier Guchet.
Oui, Nathalie mentionne l'intérêt très profond de Gilbert Simondon pour la pédagogie. Hein, les premiers textes que nous avons de Gilbert Simondon portent sur la pédagogie, sur l'enseignement, et en particulier un texte de 1954 qui est maintenant disponible dans l'un des volumes édités récemment par Nathalie. Un texte dans lequel Simondon explique aux élèves qu'il s'agit de revoir en profondeur notre regard sur l'objet technique, qui doit être à la fois un regard de connaissance, non un rapport cognitif, mais aussi un rapport affectif, mais aussi un rapport de respect. C'est en fait tous les éléments de l'architecture de la critique kantienne se retrouvent dans cette réévaluation de notre rapport à la technique. Ce qui montre à quel point Simondon voyait dans ce rapport à la technique, dans cette relation à l'objet technique, une introductrice aux problèmes les plus généraux et à la reprise de cette question qui est la question kantienne par excellence, qu'est-ce que l'homme ? Voilà. Donc la pédagogie a une dimension philosophique. C'est pas simplement résoudre des problèmes d'enseignement pratique. La pédagogie est une introductrice aux problèmes philosophiques les plus généraux.
Le livre de Gilbert Simondon, Du mode d'existence des objets techniques, paru chez Aubier, touche aux problèmes les plus actuels. À partir de là, il développe des idées originales dont on sent qu'elles doivent tout à une expérience personnelle. Dès l'abord, il arrive à des conclusions très nettes. L'opposition dressée entre la culture et la technique, entre l'homme et la machine, est fausse et sans fondement. Elle masque derrière un facile humanisme une réalité riche en efforts humains et en forces naturelles et qui constitue le monde des objets techniques, médiateurs entre la nature et l'homme.
L'objet technique n'est pas beau dans n'importe quelle circonstance et n'importe où. Il est beau quand il rencontre un lieu singulier et remarquable du monde. La ligne à haute tension est belle quand elle enjambe une vallée, la voiture quand elle vire, le train quand il part ou sort du tunnel. L'objet technique est beau quand il a rencontré un fond qui lui convient, dont il peut être la figure propre, c'est-à-dire quand il achève et exprime le monde. L'objet technique peut même être beau par rapport à un objet plus vaste qui lui sert de fond, d'univers en quelque sorte. L'antenne du radar est belle quand elle est vue du pont du navire surmontant la plus haute superstructure. Posée au sol, elle n'est plus qu'un cornet assez grossier, monté sur un pivot. Elle était belle comme achèvement structural et fonctionnel de cet ensemble qu'est le navire, mais elle n'est pas belle en elle-même et sans référence à un univers. C'est pourquoi la découverte de la beauté des objets techniques ne peut pas être laissée à la seule perception. Il faut que la fonction de l'objet soit comprise et pensée. Autrement dit, il faut une éducation technique pour que la beauté des objets techniques puisse apparaître comme insertion des schèmes techniques dans un univers au point clé de cet univers. Je viens de lire un extrait du mode d'existence des objets techniques. C'est dans la troisième partie qui est consacrée à l'essence de la technicité. Et on a entendu dans ce texte cette idée d'éducation technique dont on vient de parler. Il faut apprendre en fait à connaître les objets techniques, à pouvoir les juger et ce faisant aussi à établir une forme de continuité entre l'homme et la culture, mais aussi la nature. C'est ce qu'on a entendu dans la critique de Jean Grenier du livre de Gilbert Simondon. Avec l'objet technique, on peut dire que Gilbert Simondon dessine même une forme de cosmologie, en fait, de rapport au monde. Nathalie Simondon.
Ah, vous avez absolument raison. C'est ce qui fait que la technique doit être pensée, vraiment très sérieusement, c'est qu'elle est la médiation entre l'homme et la nature. Ça, il n'y a aucun doute. Elle est l'objet technique et ce par quoi l'homme est en relation avec la nature. C'est ce qui fait qu'il a justement que l'objet technique a un pouvoir libérateur et qu'il est aussi porteur de progrès. Dans l'évolution de l'homme. L'extrait que nous venons d'entendre est effectivement un extrait de la troisième partie du mode d'existence dans laquelle il y a une théorie véritable de la pensée esthétique dans sa différence avec la pensée technique, dans sa différence avec la pensée morale, avec la pensée scientifique. C'est vraiment cette partie dans laquelle on essaie de circonscrire véritablement le sens de la technicité par différence avec le sens de l'esthétique ou de la pensée esthétique. Et c'est effectivement ce qui rend cet ouvrage de philosophie de la technique un ouvrage de philosophie générale ou un ouvrage de philosophie de la culture.
Alors en quoi l'objet technique se distingue de l'objet esthétique, Xavier Gucher ?
Alors pour revenir sur cet extrait, et je répondrai à votre question dans la foulée, ce qui est très important, c'est de comprendre que pour Simondon, la notion de beauté technique qu'il emploie dans cet extrait ne signifie pas une évaluation, un jugement porté sur la technique en fonction des normes du moment, d'une société particulière à un moment donné de son histoire, qui s'est donnée elle-même des normes du jugement de goût. C'est tout à fait le contraire. C'est la notion de beauté technique renvoie plutôt à une dimension d'universalité, d'objectivité même. Ça dépend. Enfin, ce qui génère le sentiment de beauté technique est un certain type de rapport entre l'objet et son milieu. La manière dont l'objet s'insère dans un milieu. C'est ça qui génère ce sentiment de beauté. D'ailleurs, Gilbert Simondon, à ma connaissance, ne va plus tellement utiliser ce terme de beauté technique par la suite, alors que la question des rapports entre technique et esthétique ne va pas cesser de le préoccuper. Et il reprendra à travers d'autres concepts ou au moyen d'autres concepts cette question qui est fondamentale chez lui. Pourquoi est-ce qu'elle est fondamentale ? Une explication possible tient précisément au fait que pour lui, esthétique veut donc dire non pas jugement de goût dans une société déterminée, mais aesthesis aussi, c'est-à-dire
le fait de sentir,
c'est-à-dire ça rattache la technique directement au vivant. Oui. Ça rattache la norme technique, les normes propres de la technique, aux normes du vivant. Et je crois que cette pensée, cette nécessité de penser l'articulation entre le vivant et la technique est tout à fait fondamentale. Et c'est ça qui rend possible, précisément, le déploiement d'une réflexion sur les formes générales de la culture telle que Simondon la déploie dans cette troisième partie de Du mode d'existence.
Mais ce qui est technique n'est pas vivant pour autant. Hein. C'est-à-dire que dans le texte quand même que j'ai lu, il dit que l'objet technique doit rencontrer un fond qui lui convient. C'est comme si subsistait malgré tout une forme de fond qui serait de l'ordre de la nature, du naturel, et l'objet technique qui viendrait plus ou moins heureusement s'y fondre. Est-ce qu'il y a quand même une dualité qui persiste chez Simondon entre d'un côté ce fond naturel et cet objet technique qui serait artificiel ? Vous regardez ?
Je réponds. Non, alors je crois qu'il y a... c'est un peu compliqué de rentrer dans les... pourquoi ces notions de figure fond ? Il faudrait revenir à ce que Simondon dit de la magie... ce qu'il appelle la magie primitive ou l'univers magique primitif.
La magie qui était le premier rapport au monde, en fait, avant la technique, et qui, pour le coup, n'organisait pas les choses de manière cohérente comme la technique l'a fait,
Il y avait une vraie cohérence dans l'univers magique, ce que Simondon appelle l'univers magique primitif, qui d'ailleurs n'est pas exactement ce que les ethnologues qui avaient abondamment produit, travaillé sur cette question, autour de cette question de magie. C'est pas exactement ce que Simondon veut dire. C'est plutôt un concept qui permet justement d'introduire la genèse des modes d'être au monde de l'homme à partir d'une situation qui les précède et qui est de type vital. Hein, comment l'homme en tant que vivant organisait son rapport au milieu, à partir de quoi justement ces formes de la culture ont pu se dégager et se développer. Donc non, c'est un univers très organisé, mais qui justement ne connaît pas les dualités ultérieures, celle de l'homme et du monde, celle du moi et du monde, celle du sujet et de l'objet, celle de l'homme et de la nature. Hein, toutes ces dualités sont postérieures à ce mode d'organisation premier, primitif, dit Simondon, des rapports de l'homme et du monde qu'il appelle magie. Donc le passage que vous avez passé sur l'insertion de l'objet technique dans ce fond, en fait, est une manière de retrouver dans le contemporain, en quelque sorte, quelque chose de l'ordre de l'univers magique primitif, c'est-à-dire d'avant les dualismes de la pensée moderne, finalement.
C'est-à-dire l'émergence de la technique associe de paradoxal qu'elle est à la fois l'émergence d'une dualité avec la nature, et en même temps, Simondon essaye, si j'ai bien compris, c'est peut-être son ambition, de finalement repenser à un tout qui soit beaucoup plus homogène et sans dualité, Nathalie Simondon.
C'est la tâche de la philosophie que de redonner une unité à la culture, qui ne peut pas ne pas se déphaser dans ses spécifications que sont la pensée technique, la pensée scientifique, la pensée morale, la pensée religieuse, la pensée politique. C'est exactement l'ambition de la philosophie. C'est ce qu'il y a à faire pour que l'homme ne soit pas séparé de lui-même.
Et la réflexivité désigne précisément cette tâche de reprise réflexive chez Simondon. Ça veut dire que la pensée doit se faire aussi riche, aussi articulée que le réel lui-même.
En cela, est-ce que Simondon a la pensée de Simondon est remarquable par cette ambition-là, mais aussi par la forme qu'elle prend à la fois. Elle fait systématique, elle semble systématique, et en même temps, elle semble unir différents champs, les sciences humaines, la technique, et elle-même être une pensée au milieu, en milieu, c'est-à-dire qui dépasse les dualités.
Ça, c'est vraiment l'objet de toute sa thèse sur l'individuation, que d'établir qu'il est possible de penser les choses en repensant ce qu'est un individu, mais un individu véritable, qui n'est pas seulement une chose individuée, mais quelque chose qui est capable d'individuation intérieure. C'est son ambition, l'ambition de cette thèse, que de montrer qu'on peut, à condition évidemment de faire des transferts, je dirais, de modèles en changeant chaque fois ce qu'il y a à changer, qu'on peut repenser les choses dans leur ensemble.
Systématique, pourquoi pas, mais à condition de dire que ce système, ou de penser que ce système est indéfiniment ouvert et peut accueillir sans cesse de la nouveauté. Check my custom machine.
Beaucoup à vous deux, Nathalie Simondon. Je rappelle que vous êtes responsable des publications de Gilbert Simondon au PUF. Donc, on y trouve récemment dans des éditions établies par vous ces cours sur la perception, sur la communication et l'information, et sur l'imagination et l'invention, dont on parlera mercredi. Et puis apparaître sur la philosophie en septembre prochain, dont on a entendu un texte au début de l'émission. Et puis merci à vous aussi,
merci
Xavier.
Merci
à vous, Xavier Guchet, maître. Donc, pardon, pas vous êtes auteur donc de Pour un humanisme technologique, culture, technique et société dans la philosophie de Gilbert Simondon, c'est disponible au PUF. Et puis on trouve aussi de vous aux éditions Léo Cher, Les sens de l'évolution technique. Et bien sûr, chers auditeurs, vous trouverez chez Aubier Du mode d'existence des objets techniques de Gilbert Simondon. Quant à nous, retrouvons-nous demain pour la suite de notre semaine consacrée au philosophe Gilbert Simondon. Donc, et demain, nous évoquerons avec Jean-Hugues Barthélémy sa pensée de l'individuation. D'ici là, pour écouter cette émission, et bien rendez-vous sur le site de France Culture à la page des Nouveaux Chemins. Vous pourrez non seulement l'écouter en ligne, mais aussi la télécharger, la podcaster et y trouver toutes les références bibliographiques et musicales du jour. Rendez-vous également sur les pages Facebook et Twitter des Nouveaux Chemins, où toute l'équipe met en ligne l'émission du jour.